Bonjour, Coco Cash.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman de la Lune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux. Je suis également la maman de trois merveilleux enfants qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi. Lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Dans ce 16e épisode, place à un papa. Arnaud vient nous parler de sa patrescence en découvrant ce mot. Il évoque l'éveil qu'il a vécu en devenant papa. Et notre discussion nous emmène sur différents sujets. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il nous offre sa vision du monde transformée par la paternité. Je vous laisse découvrir cet épisode et vous souhaite une belle journée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi, je vous laisse découvrir le livre de Lise Bourbeau. Bonne écoute. Bon Arnaud, enchanté. Je te souhaite la bienvenue.
Enchanté, merci.
Je suis vraiment contente que tu aies répondu à l'appel pour venir témoigner de ton histoire.
Ben, j'ai beaucoup de gratitude en tout cas pour le fait que tu veuilles donner la parole aussi au papa. Ouais. Ça me paraît essentiel parce qu'on est aussi un papa, c'est aussi une maman. C'est plusieurs choses à la fois. Ouais. Ben, et personnellement, le fait de la paternité, c'est une forme de fertilité mise au masculin.
Okay.
Je le vois comme ça. Je suis jardinier, j'aime prendre soin de la vie. En fait, c'est prendre soin, je crois. Hein. L'axe moral premier, c'est prendre soin.
D'accord.
Et il y a le fait de devenir papa, quoi, ou de devenir fou. C'est un enfant qui nous fait quoi, en fait. On rencontre un nouvel être. Il est là, il est tout neuf. Il y a en plus énormément de leçons à nous transmettre parce qu'il n'est pas encore souillé de nos préjugés, de nos croyances, certitudes, pire, et tous nos travers. Mm-hmm. Et pourtant, ils ont aussi un flux qui leur est propre, une façon d'être au monde qui est unique à chaque fois. Et ça, ouais, pour tous les êtres vivants, et avec un enfant, c'est incroyable de voir ça.
Chouette. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, combien tu as d'enfants? Explique-nous.
Ok. Et alors, moi, je suis papa de Jules, qui a 6 ans. C'est mon seul enfant. Je l'ai eu il y a 6 ans. Donc, j'étais en couple avec sa maman depuis 12 ans. Okay. 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Un peu plus, ouais, quand elle est tombée enceinte. Et on avait fait un parcours ensemble, on s'était rencontrés au lycée, elle dans le soin aux personnes et moi dans le paysagiste, à Varzy, dans la Nièvre.
Ouais, super.
Et puis, cette aventure a fait qu'on est devenus parents ensemble. Aujourd'hui, il s'avère qu'on ne partage plus rien ensemble, si ce n'est l'amour de cet enfant.
Ouais.
C'est déjà énorme. Hein.
C'est vrai.
Et ce petit Jules, il est arrivé, il était désiré, vraiment désiré. Et c'est un peu comme si je m'étais préparé, tu vois, depuis 10 ans au moins. Tu sais, alors, quand j'avais, pendant longtemps, je ne voulais pas devenir papa, mais je savais que ça arriverait certainement un jour. Mais je m'étais dit, moi, je ne veux pas rajouter un être de plus sur Terre, avec les conditions de souffrance, de machin, quoi, la vie, quoi, finalement. Je ne l'acceptais pas dans toute son amplitude. Puis dans un contexte écologique où j'avais déjà conscience qu'on était déjà trop nombreux, ça augmente à chaque seconde, 5 naissances par seconde et 2 décès. Donc 3 êtres humains en plus chaque seconde. En ce moment. Donc ça m'a interrogé ça, ce sujet-là beaucoup. Et bon, ça a fini par se réaliser. Donc ce petit bonhomme qui est arrivé et qui m'a réappris l'émerveillement. Ouais. Il a une petite sœur, lui, de son côté, du côté de sa maman. Du coup, elle a refait sa vie avec un autre homme. Puis, ben, moi, j'ai pas mal bougé. Et là, je suis avec ma compagne à Bordeaux. On vit dans une éco-coloc à 6. Mais avec un très grand jardin, ben, un des plus grands jardins privés de Bordeaux. On s'éclate bien autour de la permaculture. Et Jules fait partie des petits jardiniers, quoi. C'est le petit lutin du jardin. Et je crois que mon expérience de papa, ce qui me transporte, c'est cette transmission, pas transmission, c'est cet émerveillement, co-émerveillement, que nous permet d'être, ce qui nous permet un enfant. Et ce regard-là, il est génial, parce que du coup, tous les insectes, tous les oiseaux, la vie du sol, et cette génération est particulièrement éveillée, je trouve, quoi, à l'écologie, finalement, au lien dans le vivant, à l'imbrication de tous les êtres vivants. Et je pense que ça, c'est à préserver et à cultiver, vraiment.
Je pense que je te rejoins tout à fait. Et puis, pour le coup, en tant qu'éducatrice Montessori, ça me parle énormément, tu peux t'en douter. Ça, c'est vrai que nous, on a tendance à parler de la magie des enfants, de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, quoi.
Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Bah oui, mais c'est ça. C'est, en fait, c'est un peu comme de la poussière qui serait posée sur nos yeux, l'ordinaire. Mmh. Ça n'existe pas. Ouais. Et souvent, c'est parce qu'on est, égocentré. Et un enfant, c'est ça. Il nous permet de nous sortir de nous-mêmes, quoi. Normalement, si on a ceci comme, comme direction, ouais, c'est ça. La direction de devenir plus grand que soi. Et ces êtres qui arrivent... Bah, tout comme nos parents, en fait, notre famille proche, bah, notre conjoint, notre compagne, nos amis proches, tout ça, ça forme une bulle d'identité qui est nous-mêmes aussi, mais encore plus grand que nous-mêmes. Et un enfant, c'est vraiment ça, quoi. Il revient chercher ce que tu as de pur dans l'âme, quoi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de le vivre, que je le vis aujourd'hui. Pas toujours.
Rassure-nous, oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, c'est du beau et en même temps c'est pas facile. Hein. C'est... Quand lui, donc il a été, on l'a mis en route avec sa maman. Je travaillais sur des lignes haute tension, sur des antennes de téléphonie, je conduisais des poids lourds en nacelle et je traversais un peu toute la France, quoi, carrément toute la France. Là, j'étais en chantier à Saint-Malo, on habitait en Bourgogne, je faisais les allers-retours tous les débuts de semaine, fin de semaine, et on faisait les travaux en même temps. Elle a fait de la maçonnerie avec Jules dans le ventre, il a pu retaper une vieille maison enceinte. Et il est né après, à la fin des travaux, quoi. Et il était tout petit. Déjà, la grossesse est super bien passée. L'accouchement est arrivé en 20 minutes à peu près. Elle a commencé à avoir des contractions fortes à 2-3 heures du matin, je crois 3 heures. Elle me réveille. Du coup, je l'emmène à la maternité. Et de là, on était en train de signer, de faire les papiers, tu sais, au bureau.
Les admissions.
Voilà. Et en fait, elle a perdu la poche des os à ce moment-là. Et lui, il est né donc à l'hôpital. Okay. L'accouchement à la maison, donc Magali n'était pas très engagée là-dessus. Et puis bon, ben, peut-être aussi qu'il n'y en avait plus, qu'il n'y en avait pas dans l'endroit où on était, c'est possible aussi. Je ne me rappelle plus trop les raisons de pourquoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé vivre.
Ouais. Toi, tu aurais été sensible à une naissance à la maison ?
Ouais.
C'est quelque chose que tu avais envisagé ?
Ah ouais, ça j'aurais beaucoup aimé. Même, j'étais intrigué par les accouchements dans l'eau ou debout. Ouais, c'est. Mais après, être papa, c'est être en accompagnement de la personne avec qui on est et pas forcé à poser des idées ou à quoi. On peut partager des idées, mais finalement, c'est pas toujours facile de vivre quelque chose d'aussi intime dans le corps d'une femme quand on est un homme à côté. Donc du coup, moi, j'ai essayé de faire résonner son ventre en chantant des mantras, tu vois, en balançant le son. Puis, parce que avant ça, quoi. Même là, jusqu'à sa naissance, un peu après sa naissance, j'étais moine zen, moine bouddhiste. Du coup, je pratiquais pas mal la méditation. Et quand je disais que je m'étais préparé depuis au moins 10 ans, c'est ça en fait. C'est que j'ai médité pendant de nombreuses années. J'ai essayé d'appréhender les outils de la communication non violente. Mm-hmm. L'écoute active, je ne connaissais pas à l'époque. Et Dieu sait que ça aurait été tellement plus facile plein de choses si j'avais connu cet outil. Puis ben, les 5 blessures de l'âme. Je connaissais pas non plus du coup, et quand il est né en accueillant un peu le karma de famille de nos deux côtés. Et ça, je pense que c'est un travail que je conseillerais à tous ceux qui voudraient devenir parents, le faire avant de devenir parents. C'est vraiment de pouvoir travailler sur les 5 blessures de l'âme. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, et je sais plus.
Je t'avoue que là, tout de suite, ça me vient pas.
Bref, en tout cas, l'éducation, je pense, ça commence déjà par parfiler, par ne pas refiler ce qu'on a de plus négatif en nous. Ensuite, c'est de donner des méthodes de communication, de montrer l'exemple. Et bon, bravo, quoi. Je te vois tout à l'heure interagir avec tes enfants. Alors que bon, vous êtes à l'intérieur, que c'est une gestion qui, parfois, pour certains parents, ne peut ne pas être facile. Et je vois que ça roule plutôt bien. Et chez moi, ça va aussi. On parraine aussi une petite fille. Alors du coup, avec Angèle, on n'est pas parents tous les deux. Mais on parraine une petite fille qui vit avec sa maman toute seule. Il y a une association qui s'appelle Parrainage 33. Okay. Et donc, on a la petite Camille qui vient souvent avec nous. Et puis, quand on a Jules en vacances, en week-end, parce que je garde Jules un week-end sur deux, mais lui, il habite à côté de Rambouillet. Okay. Donc, un week-end sur deux, je monte jusqu'à côté de Rambouillet, depuis Bordeaux, pour le rejoindre et passer le week-end ensemble. Des fois, quand c'est un grand week-end, on descend à Bordeaux, mais la plupart du temps, c'est un peu trop compliqué et trop cher. Donc, du coup, c'est plutôt pendant les temps de vacances. Et Camille, qui vient des fois toute seule à la maison, particulièrement avec Angèle, et puis quand on est tous les deux. Du coup, c'est une autre forme de... Le parrainage, c'est un peu comme si on devenait tonton, tata, et on suivait un petit peu un enfant en plus de Jules. Et ils ont le même âge, 6 ans. C'est aussi un beau partage. Moi, je crois que je suis en train de sortir du sujet, je ne sais plus.
C'est pas grave, t'inquiète pas.
Est-ce que parmi ce que j'ai dit, il y a des choses qui t'ont interpellé, auxquelles t'aimes que je développe ou...
Ouais, alors moi j'ai trouvé ça... Pour le coup, je vais repartir côté naissance. J'ai trouvé ça très intéressant de voir. Donc déjà, ben, le respect que tu peux témoigner en disant, ben voilà, c'est sûr que on peut accompagner la maman dans ce qu'elle vit dans son corps, mais en même temps, c'est vrai que au niveau de la légitimité, c'est pas possible d'imposer des choix de toute façon. Mais du coup, je me demande. Moi, j'ai la sensation, mais du coup, je suis heureuse de me tromper vraiment, que souvent, c'est une démarche de la maman qui est suivi du papa. Moi, j'entends beaucoup, tu vois, moi, pour le coup, j'ai donné naissance à la maison plusieurs fois, et autour de moi, c'est souvent les mamans qui disent, ben, il faut que j'arrive à convaincre, et on me demande comment faire pour convaincre le papa. Et moi, j'ai envie de dire, ben, non, moi, j'ai pas convaincu, j'ai pas cherché à convaincre, parce que je me dis qu'en fait, c'est un choix aussi de chaque personne. Mais du coup, je me demande, quelles ressources en tant que papa, quel cheminement, comment t'en arrives à imaginer un projet comme la naissance à la maison. C'est peut-être une grande question, du coup.
Comment, si je devais avoir un enfant, par exemple, comment j'imaginerais la naissance à la maison?
Ouais. Comment...
Eh ben, en lien... là, on vient de faire un travail de recherche, quoi, Angèle, surtout. Parce qu'un des grands sujets de débat, de philosophie, de culture, hein, et de plus que ça, d'échange, c'est le lien entre le yin et le yang, le masculin et le féminin, la fertilité du sol, de la planète et de nous. Et en fait, par exemple, on travaille tout l'aspect, s'il y avait un placenta, là par exemple, quoi, la maison permet aussi de recevoir le placenta et de pouvoir, et l'utiliser comme dans les traditions anciennes. Donc là, il y a dans beaucoup de cultures l'utilisation du plein sata, mais aussi du sang des règles, pour se donner des, comment dire, une immunité, faire guérir des maladies dans le corps. Il y a ça, plus aussi la fertilisation du jardin. Donc par là, je veux dire, l'accouchement à la maison, ça permettrait aussi de rentrer dans ce cycle où finalement on est en lien avec un endroit. C'est pas hors sol. C'est pas comme voilà, c'est pas de la culture hors sol. On vit au quotidien sur un endroit, on meurt à un endroit quotidiennement à cet endroit, dans le sens où on perd des cheveux, où on perd de la peau. Je crois que c'est au bout de 2 ans, on a tout notre corps qui est. Il n'y a plus un atome qui soit pareil que 2 ans auparavant. Donc en fait, c'est avec l'urine aussi, avec toutes ces émanations de notre corps, finalement, il n'y a pas de frontière. Et donc du coup, la naissance, donc c'est la fertilité, c'est aussi se nourrir d'un endroit avec un jardin, c'est aussi ça. Voilà, là où je veux en revenir. Finalement, notre corps, il se compose des choses qu'on mange. Et on vit sur cet endroit où on fait pousser les choses. Ceci devient notre corps. Et quand un bébé grandit dans le ventre de sa maman, il va se composer de cette matière première qui est celle de l'endroit. Donc il y a un matériau énergétique. Quoi, je le sens comme ça. Quand on met de l'âme, quand on prend soin de l'endroit où on vit, ça permet aussi d'incarner un enfant, finalement, qui est le fruit, pas que d'un homme et d'une femme, mais de quelque chose de plus grand. Ouais, ça me plairait vachement un jour, quoi, un jour, si je redeviens parent, ce dont je ne suis pas sûr, de le faire sur le lieu où je vis, et où je vis, voilà, avec d'une manière homéostasique, en harmonie avec finalement mon entourage et des plantes et des animaux et de l'eau.
Tu donnerais plutôt une dimension spirituelle du coup au fait que l'âme qui s'incarne elle puisse aussi naître être dans la rencontre à l'endroit.
Alors voilà, ma vision de l'âme, c'est pas celle que d'ailleurs qui est enseignée vraiment dans le bouddhisme, quoi. C'est pas non plus, c'est la mienne, elle est propre. Ma vision de l'âme, c'est comme la concrétion de la matière. Donc voilà, en effet, de matière qui est née en même temps que les étoiles, comment dire, certains composés organiques, en fait, nous proviennent de nos plus lointains ancêtres, qui étaient des bactéries eucaryotes, qui sont devenues des mousses, qui sont devenues des lichens, des algues, qui sont devenues des poissons, des mammifères, et entre autres, des arbres et des fleurs et des insectes et des vers. Voilà, toute cette même matière, cette même énergie qui se multiplie et quelque chose de nouveau à chaque fois naît, qui est le fruit d'une époque ou d'un temps donné, dans un lieu donné, avec des individus donnés. Donc je ne vois pas l'enfant comme seulement une âme, par exemple, qui viendrait d'une autre vie ou qui se réincarnerait, mais plutôt comme quelque chose qui naît pour la première fois. Et comme si c'était des micro-univers qui sont faits de dimensions qui leur sont propres à chaque fois. Toi, moi, chaque élément vivant qui nous entoure, comme une concrétion d'âme, comme la concrétion du corps, comme la matière, mais en âme, tu vois. Ça, donc c'est un peu difficile à conceptualiser, mais je commence à arriver à mettre des mots dessus.
C'est intéressant de voir aussi des différentes dimensions, les différentes symboliques. Moi, ça me parle, tu sais, ce que tu évoques, parce que par exemple... moi, j'ai entendu Maria del Carmen, qui était venue avec une association dans le coin en janvier, au mois de janvier, qui, elle, du coup, fait partie d'une tribu... alors, je ne peux plus te dire le nom de l'ethnie parce que je ne me rappelle plus, mais ils vivent vraiment selon des traditions ancestrales. Et justement, il y avait trois choses qui étaient importantes pour eux. C'était savoir où la personne avait été conçue, où la personne était née et où était le placenta de la personne. Tu vois, c'était trois choses qui étaient vraiment essentielles pour ces personnes-là. Et en fait, ils partaient du principe que tu ne pouvais pas être en bonne santé, tu ne pouvais pas aller bien, vraiment bien, si tu n'avais pas ces éléments-là.
Ouais.
Et tu vois, pour dire comme quoi c'était vraiment important pour les personnes. Et pour eux, par exemple, bah le sang des lunes, le sang des règles, c'était quelque chose qui pouvait guérir l'humanité complètement. Et ils le voyaient vraiment comme un trésor. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et qui choque énormément. Je garde le sang de mes lunes pour l'offrir aux plantes parce que ça me semble aussi être une énergie, quelque chose que mon corps a produit et que je vois, alors peut-être pas, j'irai peut-être pas jusqu'à dire comme sacré, bien que ça pourrait l'être, mais en tout cas, j'ai envie de, d'honorer ça aussi et de le mettre en lien avec la Terre, ça me semble.
Et ça a été sacré dans l'humanité depuis la naissance des religions jusque, grosso modo, il y a un peu plus de 2000 ans. Et encore que. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Et pour moi, ça ne me choque pas du tout, bien au contraire. Pour moi, c'est le fil conducteur, en fait. Quand on connaît un peu le sol, la terre, on sait qu'il y a des éléments qu'on ne trouve pas naturellement. C'est les animaux qui le donnent. Donc, nous sommes des animaux. Parmi ceux-là, il y a les poils, il y a l'urine, les sécrétions et les selles. Mais il y a aussi, en effet, le sang des règles. Et qui est très riche en azote, en phosphore, qui permet aux plantes, qui permet la vie en fait. Hein. Ça permet la vie.
La matrice, quoi.
C'est la matrice. Et on le sait après, donc quand le patriarcat a pris le dessus, a effacé tout, parce qu'on peut vraiment parler d'effacement de la mémoire, car il y avait eu les chasses aux sorcières, on le sait, mais il y a eu aussi des changements de nom. Par exemple, en Arabie Saoudite, avant à l'arrivée d'Allah, il y avait Alaï, je crois que c'est Alaï, qui était la déesse de la fertilité.
Okay.
Et comme hier, là, je me faisais la réflexion en étant auprès d'une source où il y avait une Vierge Marie. La Vierge Marie, l'eau, l'abondance, la vie est représentée par le féminin.
Oui.
Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion... si les pierres qu'on retrouve sur les sites celtiques ou pré-celtiques, gros monolithes, dans lesquels sont sculptés des petits creux, où on voit comme pour faire couler quelque chose, soit peut-être de l'eau, soit peut-être du sang, ou des choses comme ça, je me faisais la réflexion, est-ce que si justement c'était pas le sang, on parlait souvent de sang des sacrifices, mais en fait, sacrifice, en fait, c'est ce qui est sacré, le sang sacré, et je vois bien, en fait, plutôt le sang des menstrues comme quelque chose de lunaisons, comme quelque chose de l'ordre de la vie, plutôt que de l'ordre de quelque chose qu'on doit se débarrasser. Et le placenta, mais ça me paraît tellement juste de savoir où ça se trouve. Moi, par exemple, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire, où il est le mien, où est celui de mon enfant. Ça nous perd, quoi. Pourquoi on perd racine. Et c'est fou, parce que autant la terre disparaît, parce qu'elle est emportée par les catastrophes, la sécheresse, le vent, l'eau. Autant on a perdu nos racines aussi, culturales, autant que culturelles, de ce lien à la terre, de ce lien à la vie. Combien de personnes aujourd'hui mettent encore les mains dans la terre pour semer des graines, faire pousser des plantes, pour bouturer, pour multiplier cette vie et cette abondance? On est hors sol, sans racines, on est comme les poulets en fait, qu'on fait élever dans nos hangars, par milliers, par millions, déconnectés. Et du coup, vu qu'on est déconnecté de l'abondance qu'on peut avoir dans un milieu, parce que dans un micro-lieu, tu peux voir si tu as assez de nourriture ou pas pour un certain nombre de personnes. Et si tu l'as pas, tu fais pas plus d'enfants, quoi. C'est comme ça que l'humanité s'est autorégulée pendant très longtemps. Donc c'est tout à fait en lien, on boucle la boucle en redonnant, je trouve, le sang des lunaisons au jardin, mais aussi pour soigner le corps, parce qu'a priori, il y a donc faut qu'on se renseigne un petit peu plus là-dessus, il y a des études scientifiques assez récentes qui montrent qu'il y a des cellules souches dans les règles.
Oui, tout à fait.
Et que du coup, elles peuvent servir à un tas de guérisons.
Oui. Actuellement, on est en pleine découverte encore. Chaque jour, on en découvre de nouveau. Ça, c'est assez incroyable. Mais du coup, ce que tu viens de dire, ça fait vraiment écho à quelque chose d'important. Et je pense que l'origine vraiment de ce podcast, c'est aussi ça. C'est de se dire, enfanter et devenir, c'est ça finalement. moi, je le voyais vraiment comme quelque chose, quand je disais récit de naissance à soi et au monde, que pour moi, la naissance, ça peut être un point de départ, donc celui de l'enfant, évidemment, mais celui aussi souvent d'une autre ouverture. On parle de la matrescence et de la patrescence pour la naissance d'un père ou d'une mère, mais c'est un éveil à l'autre chose. On a comme une dimension nouvelle aussi, alors qui passe pas nécessairement par la parentalité. Hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir des expériences sans avoir vécu celle-ci. Mais en tout cas, je reste convaincue que la manière dont on est va aussi influer sur la manière dont on va pouvoir être connecté. Comme tu disais, en fait, là, on est juste, on n'est plus connecté. Donc, on n'est plus en lien les uns avec les autres, avec la nature, puis avec notre nous, tout simplement, parce que je pense que ça passe par là. Et du coup, l'idée, c'est aussi de proposer, donc de donner à la parole pour plein de témoignages différents, mais aussi de proposer, de déconstruire l'image qu'on peut avoir comme la naissance, c'est un acte médical, c'est juste un truc physique qui doit passer, et puis voilà. Parce que je pense qu'en vérité, c'est bien plus, finalement.
Ça embrasse toutes les dimensions de notre vie, quoi. Charnel, spirituel, émotionnel et aussi philosophique, parce que ça amène à se poser plein de questions. Quand Jules est né, tout d'un coup, je me suis dit, là, le monde tel qu'il est, je ne peux plus le laisser comme ça. Et du coup, je me suis engagé dans Alternativa, dans Lyon. Parce que vraiment, c'était plus possible. Alors, je faisais mon jardin, je faisais ça. Je faisais des travaux, mais non, tout ça, alors du coup je me suis beaucoup investi pour essayer de faire quelque chose de bien de ce monde, mais j'ai perdu le fil sur mon lien intime avec avec la mère de mon fils et avec mon fils. Finalement, bizarrement, j'étais trop à l'extérieur. Je tenais un dojo dans lequel j'allais tous les dimanches, qui était à une trentaine de kilomètres, donc pour enseigner la méditation, le zen. J'avais le jardin où j'étais beaucoup, plus le boulot qui prenait énormément de temps. Et même d'ailleurs, quand j'étais au chômage, j'ai fait une dépression en fait nerveuse, et sans le savoir, ça a entraîné un tas de choses. Ça a entraîné notre séparation, ça a entraîné tout un tas de trucs. Parce que j'étais écartelé. En fait, j'ai fini mon job complètement écartelé, en sachant qu'il y avait mon enfant à la maison et que moi, j'étais sur les routes en train de faire des boulots qui allaient à l'encontre de mes convictions. Les lignes haute tension, les antennes de téléphone. Et puis en plus de polluer, parce que chaque fois que je démarrais un camion, je me disais, c'est reparti pour quelques milliers de litres de gaz carbonique dans l'air, voire quelques millions, je ne sais pas, tu vois, quand tu traverses toute la France. Et la patrescence, je ne connaissais pas ce mot, je te remercie beaucoup de m'avoir transmis. Ça a été ce changement de paradigme où j'ai souhaité changer le monde, mais un petit peu trop vite. Sans prendre attention, en tout cas, je suis devenu plus un papa, j'ai une deuxième patrescence. Voilà. Okay. Ça va être intéressant à parler. La deuxième patrescence est arrivée quand on s'est séparé avec sa maman, au un an de Jules. On a vécu encore 6 mois ensemble, mais on n'était plus tout à fait ensemble. On n'était plus ensemble, quoi. C'était un peu trash comme période, avec la colère, avec plein de trucs, pas cool. On a réussi quand même à préserver Jules de notre séparation. Et un autre mode de garde est arrivé. Donc au début, je l'avais une semaine, elle avait une semaine, et j'ai eu mon enfant seul à seul. Ça, franchement, pour tous les papas, même qui sont en couple avec la maman, les seul à seul avec son enfant, c'est quelque chose qui doit être, je pense, amené dans un planning. Au minima de 2 jours par quinzaine, mais c'est essentiel pour développer un lien profond et pas juste se côtoyer. C'est vraiment vivre des aventures. Et c'est ce que je vis actuellement là, avec la séparation. Donc la garde, c'est sa maman qui l'a. Du coup, quand je l'ai tous les 15 jours, il faut trouver un endroit où dormir, en région parisienne ou en Bourgogne, si mes parents viennent me chercher, quoi. Heureusement, j'ai de la famille sur qui je peux compter. J'ai une cousine qui habite pareil à côté de chez lui. Le lien à la famille, je pense qu'un enfant, tu vois, c'est ce qui me fait. Je pense que s'il n'y avait pas lui, je ne verrais pas aussi souvent mes parents, ni mes grands-parents. ni la famille proche ou lointaine. Mmh. Avoir un enfant, c'est ça aussi, c'est un branchement aux autres, quoi. Puis t'es obligé de demander de l'aide ou parfois des conseils, t'écoutes, tu regardes. Mmh. Ça te ramène à toi ton propre enfant intérieur aussi. Donc, mais moi j'étais comment quand j'avais son âge. Donc,
La patrescence.
Patrescence. La patrescence, ça amène toutes ces dimensions-là.
Ouais. Ah, c'est chouette à entendre. C'est sûr que souvent, alors après, ça m'embête peut-être de faire une généralité, mais souvent, moi, j'ai pu entendre des mamans se plaindre. Même si c'est pas forcément se plaindre de manière péjorative, mais en tout cas expliquer que les papas avaient du mal à s'investir, qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise, alors, notamment avec les tout petits. Et bien des fois, elles se rendent compte que c'est juste qu'en fait, elles ne laissent pas l'occasion non plus, elles ne laissent pas la place.
Oui, elles ne laissent pas la place. Ça, c'est compliqué à gérer, parce que du coup, la maman, oui, c'est un morceau de son corps quoi, qui est sorti.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, les études montrent aussi qu'on n'a pas les mêmes parties du cerveau qui sont développées pendant la naissance, homme et femme. Mm. Et du coup, c'est à la femme aussi de savoir lâcher prise et de ne pas avoir de regard ni de contrôle sur ce que fait le papa avec l'enfant et comment il s'y prend. Et c'est faire confiance, parce que du coup... homme, quand on ne fait pas confiance, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, alors, quand on ne fait pas confiance, comment dire, quelque part on fait tout pour donner raison à l'autre. Mmh. Ah ouais, je suis comme ça, mais tu sais, c'est l'histoire de la CNV. Hein. Mmh. Je suis égoïste, ok, je suis égoïste, regarde, ok, je suis égoïste. Mmh. Ou de dire fais pas ci, fais comme ça, donner les modalités de la parentalité, les modalités de « Ah oui, mais attends, moi, comme d'habitude, je fais comme ça. Ouais. Ah non, mais tu devrais faire comme si. » On a envie d'inventer notre façon d'être avec notre enfant. Et ça, c'est la grande richesse, je trouve, de la séparation. Mmh. C'est que finalement, Jules a deux vies, deux visions, deux façons de vivre qui sont, je pense, pas si éloignées que ça, mais pas si proches non plus. Et qui permettent cette diversité, finalement, de voir d'un point de vue extérieur des problèmes qui pourraient développer chez l'un ou chez l'autre.
Oui. Puis je pense que clairement, pour le vivre, hein, parce que nous aussi, on est une famille recomposée, ça demande beaucoup de lâcher prise. Et en même temps, en tant que femme, en tant que maman, je me rends bien compte que moi, j'ai été exactement dans ce schéma-là, où tout a été... Moi, j'ai eu la chance de vivre... mes débuts de jeune maman où tout a été vraiment simple et évident, mais tellement simple et évident que c'était j'étais en fusion totale et il n'y avait pas de place.
C'est ce que m'avait dit un moine un jour quand je lui avais annoncé que Jules, quoi, quand Magali était enceinte, il me dit, tu sais, quand on est avec sa compagne ou son compagnon, on se regarde comme ça, l'un face à l'autre, et puis tout d'un coup arrive un enfant. Et tout d'un coup, les deux, ils ne se regardent plus, ils regardent l'enfant. Mmh. Et donc, du coup, l'équilibre, ça serait de pouvoir regarder l'enfant et de se regarder soi aussi. Et ça, on oublie, des fois. On ne le fait pas. Mmh. Et du coup, on n'est plus forcément ni dans l'écoute active de l'autre. Et ça, c'est le grand piège. L'autre nous parle, mais en fait, on lui donne des conseils, alors qu'il ne veut pas les conseils, il veut être entendu.
Complètement. Et puis, en vrai, même si les besoins de l'enfant... du tout petit, alors déjà les besoins du tout petit changent, évoluent, grandissent, et puis il n'y a pas une seule et unique manière de répondre à ces besoins-là.
Mais non, mais c'est ça qui est intéressant dans la parentalité, c'est que t'es pas parent tout seul, quoi. Et d'ailleurs, Sophie, la maman de Camille, la petite fille qu'on garde régulièrement, c'est ce qu'elle a voulu aussi en prenant des parrains marraines, c'est de qu'elle soit pas l'unique pôle de référence de sa fille. Ouais. Ça, c'est vachement sage.
Oui, complètement. C'est chouette, ça fait un peu penser à l'idée du village, finalement, tu vois.
C'est ça. Un enfant ne nous appartient pas. C'est un enfant de la communauté.
Mais alors, du coup, quand tu racontes la naissance de Jules, ça a l'air hyper simple, il n'y a pas eu de pré-travail avant, ça s'est lancé vraiment, tout a été très rapide.
Alors, tout a été très rapide, mais allez, ça faisait quand même une semaine ou deux que ça commençait à être un petit peu difficile pour se déplacer.
D'accord.
Même, ouais, 2 semaines que c'était difficile vraiment pour se déplacer pour elle. Mais l'accouchement en lui-même s'est fait très facilement.
Ouais, ok.
Et après, une fois qu'il est né, moi j'ai tenu à le porter en écharpe, au moins les 9 premiers mois, tu vois, comme symboliquement.
Super.
Prendre le relais. Et puis il est né, il était tout petit, il faisait 2 kg 100, 10 kg 150 je crois exactement.
Okay.
Donc tout petit bébé, tout petite crevette que je portais contre moi. Et alors, des fois il essayait de me téter aussi. Je suis très sensible des tétons. Et j'imagine, c'est important aussi pour s'imaginer un peu ce que peut ressentir une mère aussi quand elle donne le sein. Je suis content pour ça d'ailleurs, donc Jules a reçu le sein de sa maman. Et les nuits, principalement, pour le faire s'endormir quand il avait mal aux dents ou quoi, c'était l'écharpe, je sortais faire un tour. Vu qu'il est né au fin novembre, en plus c'était l'hiver après, et du coup dès qu'on se sentait dans le froid, paf, ça l'endormait direct. On re-rentrait. Et puis on a bougé un petit peu partout en France, vu que j'étais encore en chantier au début. Et c'était vraiment génial, quoi. Génial, cette période. Et ça a développé un grand lien, un lien intime, tous les deux, en fait. Déjà, on se marrait beaucoup quand il était bébé. Je prenais la cuillère pour lui donner à manger. Il savait que j'allais faire des bêtises, là, faire l'avion. Et du coup, il avait l'œil de malice, tout le temps l'œil malicieux. Et puis, le son de ma voix, je pense que du coup, le fait d'avoir envoyé les vibrations dans le ventre, ça m'a mis un lien comme un cordon ombilical, mais vocal, et qui continue encore aujourd'hui par nos appels, par nos visios. Je suis à la fois un papa, mais aussi un copain de jeu, aussi plein de choses à la fois, quoi. Et j'essaye de lui transmettre mes valeurs, qui sont des valeurs d'ouverture d'esprit, de douceur, de prendre soin. On se fait des câlins tout le temps. Voilà. Et que le masculin, c'est aussi, là je porte pas ma boucle d'oreille ni mon collier, mais tiens, j'ai un bracelet. C'est aussi que homme, on peut aussi mettre des robes, on peut aussi mettre des bijoux, et ça fait pas de nous autre chose que des hommes. Ouais. C'est au contraire, hein, des hommes qui assument leur part de féminité. Le yin et le yang, en fait, hein, les deux mouvements perpétuels. Et cette douceur, je pense que, comme l'enseigne le taoïsme, il faut la cultiver à tout prix. Et je pense que c'est ce que m'a apporté la naissance de Jules, c'est en plus de douceur qu'avant. Et le fait de me retrouver papa seul avec lui, souvent, quoi, seul. Tous les week-ends, on s'est eu que tous les deux, et même encore aujourd'hui, toute l'aventure qu'on vit tous les deux, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de confiance, beaucoup de paroles, parce qu'on est beaucoup dans les transports tout le temps. Du coup, c'est toujours des occasions pour parler de différents sujets. Alors là, par exemple, dernièrement, c'est le corps, son corps, le corps de l'autre. On respecte son propre corps. On ne permet pas aux autres qu'ils fassent des choses dont qu'on ne veut pas. Ouais. Et pareil de lui envers les autres, quoi. Donc, du coup, de respecter le corps, l'intégrité. Voilà, c'est ça, l'intégrité, son intégrité, l'intégrité des autres. Et puis, par l'observation, prendre soin de ce qui est minuscule, observer les tout petites choses, et il est très méticuleux pour ça. Et ça, c'est les valeurs que j'ai envie de transmettre en tant que papa à mon fils. C'est que il n'y a pas d'un côté le masculin, d'un autre côté le féminin. Quoique, si, quelque part. Mais ce n'est pas... On peut prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux.
On a le droit d'être soi sans forcément vouloir coller aux conventions, en fait.
Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que tant que j'étais tout seul avec Jules, vu que je souffrais quand même pas mal de dépression et que je ne me faisais pas soigner et que je ne le savais pas, je n'avais pas assez de recul, j'étais souvent impatient avec lui, où je craquais, j'avais personne avec qui passer le relais. Parce que ça, je pense que la seule règle, je crois, pour un parent, pour être juste, c'est de passer le relais, savoir passer le relais. Et quand tu es parent seul, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément faire. Et quand j'ai rencontré Angèle, du coup, qui est ma nouvelle compagne, avec qui je suis depuis 3 ans, elle nous a ramené ça, elle nous a fait comme une médiatrice. Voilà, une médiatrice. On est devenus tous les deux ses élèves de dessin. Donc, Jules, il avait quoi? Il avait 3 ans. Et moi, j'en avais 33. Et bah, tu vois, le chiffre 3, voilà, c'était bien. C'était ça, c'était le symbole du chiffre 3. Ça nous a retrouvé, on a retrouvé un autre lien ensemble qui fait que ouais, on a grandi. On a grandi aussi d'avoir une personne supplémentaire dans notre duo, une nouvelle personne dans notre vie. Et aujourd'hui, Jules, c'est rigolo parce qu'il a des manières aussi qu'il a chopées, en fait, de sa belle-maman. Et ouais, c'est très, très enrichissant de voir un peu les imprégnations des uns et des autres. Pour ça, quand je vais aussi voir des copains, bah, j'aime beaucoup le laisser un peu seul avec les amis pour qu'ils fassent des activités ensemble. Quoi. En tout cas, souvent, c'est autour d'une transmission. D'un savoir-faire. Et Jules lui pose des questions. Ah, mais tu fais quoi là? Ah, mais pourquoi tu le fais? Et comment tu le fais? Alors, du coup, il fait.
Ouais, j'aime beaucoup l'enthousiasme et l'authenticité des enfants. Des fois, des choses auxquelles nous, en tant qu'adultes, c'est pas qu'on n'y pense pas forcément, c'est qu'on n'ose souvent pas.
Oui.
Comme si on devait déjà savoir, comme si ça se faisait pas, comme si.
C'est vrai. Ouais. C'est une belle aventure, hein.
Ouais, complètement.
Ah, puis ça mène à questionner sur tellement de choses, quoi. Puis là, avec la période de Covid, c'était. Là, tu vois, par exemple, je dois me dépasser, tu vois, vraiment me dépasser physiquement et économiquement, ou de plein de choses, pour émotionnellement, pour poursuivre la garde. En fait, tiens, il y a beaucoup de papas qui finissent par disparaître de la vie de leur enfant, ou disons de s'éloigner, quoi, comme s'ils prenaient des distances. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est pas pour leur donner des excuses, hein, mais il y en a beaucoup qui sont loin de leurs émotions, qui n'ont pas eu la place accordée à leur liberté lorsque l'enfant était bébé. Puis souvent après, il y a eu séparation, 50% des parents, je crois, qui se séparent avant les 1 an de l'enfant. Et là, il peut se produire plusieurs choses. Donc, soit la maman cherche quand même à ce que le père et son enfant poursuivent vraiment une bonne relation, et que le père aussi persévère, parce que il y en a beaucoup qui relâchent ou qui sombrent dans la dépression, dans l'alcool ou dans d'autres choses. Et surtout que tu as d'autres émotions qui arrivent à ces moments de séparation qui ne sont pas évidentes, en plus de la parentalité. Ça mène à se dépasser. J'ai perdu le fil là, mais oui, parce que ça me trouble ces histoires. Parce que j'ai entendu tellement d'histoires, justement, de parents et d'enfants, quoi, de pères qui ne voient plus leurs enfants. Ouais. Ça me touche énormément.
Tu étais en train de dire que tu ne voulais pas forcément leur donner une excuse, mais tu disais qu'en fait, eux, ils n'étaient pas connectés à leurs émotions non plus. Et que du coup, il y avait un côté à.
Ils le cachent sous. Par exemple, en faisant la fête ou en sortant extrêmement, en faisant toutes sortes de choses pour ne pas y penser et pour mettre ça dans un tiroir de leur vie. Sauf que ça les poursuit. Et s'il y a des papas qui écoutent, moi, j'aimerais leur dire que faut se donner l'occasion de recevoir le pardon ou de simplement se réinventer. En fait, même qu'on a des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps, un enfant qu'on n'a pas vu depuis longtemps, il pardonnera toujours, quoi. Même si il a 30 ans ou même s'il en a 50 ou j'en sais rien. Voilà, on peut faire des erreurs quand on est jeune, mais on apprend. On apprend surtout nos échecs et on en fait tous beaucoup des échecs. Et il faut juste reprendre le flambeau, refaire un pas. Le premier pas, c'est toujours le plus dur, mais on le fait et après, petit à petit. Là, par exemple, donc, je suis jardinier à mon compte à Bordeaux et j'essaye de gagner assez d'argent pour jardiner à vélo, quoi, en brouette, parce que je m'étais fait piquer mon vélo. Du coup, tu vois, j'essaye d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer tous mes billets de train tous les mois pour aller voir mon enfant. Et c'est compter une moyenne de 100 euros par aller-retour, donc 2 fois par mois. Des fois, c'est plus, des fois, c'est un peu moins. Et donc, du coup, tous les 15 jours, s'organiser dans le planning, savoir où est-ce qu'on va dormir, prendre les billets de train, les billets de RER, etc., etc. Du coup, en sachant que ben, j'ai une vie à Bordeaux avec une compagne, et si j'avais un deuxième enfant, comment ce serait, tu vois, ce rythme de vie-là, ça pourrait être compliqué, je pourrais m'arrêter aux complications et me dire « Ah ouais, non, mais c'est trop dur. » Sauf que quelque part, ben, Jules, ouais, ça ne me donne pas le choix. Il ne me donne pas le choix que d'être là pour lui. Alors, j'aimerais bien changer, je pense, avoir toutes les vacances et moins les week-ends, parce que ça m'épuise quand même sur tous les points, physiquement, émotionnellement et financièrement. Mais bon, en attendant, je suis riche de toutes ces découvertes. On est obligé d'improviser. Quand tu es dans l'improvisation et dans l'urgence, tu vis des aventures incroyables. Et là, la vie, elle est intense. Le temps, il se compresse. Tout d'un coup, ça devient un temps de vie riche. Et dans notre mémoire, ça s'imprègne vraiment comme un temps long. Que quand on est dans l'habitude, le train-train, et de ne pas prendre de risques, de ne pas être, voilà, pas être dans le danger, ben, ce temps-là, il a tendance à se...
La zone de confort.
Ouais, la zone de confort. Ben, la zone de confort, elle fait vivre la vie plus vite. Le temps, il devient tout d'un coup, il file à une grande vitesse. T'as l'impression que plus tu vieillis, plus ça file vite. Qu'avec des aventures comme ça régulières, ben, ouais, tu t'éclates, quoi. Puis de vivre un peu sur le fil aussi de « Ah, ce mois-ci, ça va être compliqué, j'ai pas assez d'argent, comment je fais ?» Mais tu y arrives tous les mois. C'est vraiment une aventure de vie incroyable que d'être parent. Et d'ailleurs, le lien avec mes propres parents s'est vraiment densifié, enrichi depuis que je suis papa moi-même. J'ai la chance d'avoir des parents aussi vraiment soignants, quoi, très, très doux, bah, avec un père qui ne sait pas exprimer ses émotions non plus, quoi, qui a du mal, quoique en vieillissant, il s'améliore. Mais bon, j'ai grandi au milieu des routiers, ma mère qui tenait un restaurant routier, j'ai été moi-même routier. Donc, ce n'est pas des milieux où forcément tu dis ce que tu as comme tristesse ou comme mélancolie, tous ces trucs-là, on les ravale. Par contre, on peut absolument sortir la colère. Donc, les gens sont en colère souvent, mais en fait, juste parce qu'ils expriment d'autres émotions, mais sur ce canal-là. Et ce lien à la route, le lien au voyage, le lien à bouger avec un enfant, je trouve ça particulièrement intéressant. Même si moi, j'ai été... j'ai quand même bougé pas mal en camion avec mon père. Et ça, ces temps de route, avec un enfant, c'est quand même très, très, très enrichissant, le voyage.
Oui, complètement.
C'est un voyage de devenir parent.
Ouais, c'est chouette. Est-ce que on va arriver sur la fin, là? Est-ce qu'il y a, du coup, toi, une petite chose que tu aimerais partager?
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que, en fait, un enfant, c'est vraiment le produit d'un rêve. On aimait une volonté vers l'avenir. Et elle se réalise. Et après, alors, elle ne se réalise pas forcément comme on avait imaginé. Mais si vraiment on veut vivre du merveilleux, c'est ce qu'une naissance nous amène, du merveilleux.
Chouette. Magnifique. Écoute, là, vraiment, quelle sublime conclusion. Je te remercie beaucoup.
C'est moi qui te remercie beaucoup. Merci pour ton écoute active, là, pour le coup. Non. Merci pour ce que tu fais, pour ton travail, ce que tu transmets à tes enfants, et puis pour toutes ces personnes que ça peut enrichir. Simplement peut-être prendre du recul sur eux-mêmes, voir qu'on est plusieurs à être sur le même chemin. Ouais, oui. Merci.
Merci.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee Enfanter et devenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.